Bataille. L'homme aux 54 enfants. Aujourd'hui, vendredi, comparé devant la cour d'assises, le nommé Ferlin, blanchisseur d'ivoire à Nogent-sur-Marne, qui aurait eu de sa femme et de différentes maîtresses 53 ou 54 enfants. Ferlin est accusé d'avoir violé sa fille Désirée Ferlin et d'avoir, de complicité avec sa femme et avec une herboriste de la rue d'Agou, fait avorter cette malheureuse, alors à peine âgée de 18 ans. Le fœtus aurait été brûlé. C'est à la suite des confidences de Désirée Fertin, qui s'enfuit de la maison maternelle et se réfugia au couvent de la Miséricorde, qu'une enquête fut ouverte et que le misérable fut arrêté. Les détails de cette affaire sont écœurants. Ferlin, d'après l'accusation, vivait avec ses servantes, du consentement de sa femme. Sa fille Désirée, élevée au milieu de ses hontes, aurait, dès son jeune âge, corrompu ses camarades de pension, et même des jeunes gens, jusqu'au jour où son père, qui se fit complaisamment raconter par elle toutes les scènes de dépravation, se décida à la prendre pour maîtresse, la prit effectivement de force et continua ainsi pendant 2 années un commerce honteux. La femme Ferlin aurait connu l'inceste et elle aurait encouragé. Ce procès monstrueux sera jugé au moins en grande partie à huis clos. Maître Henri Coudon est chargé de la défense de Ferlin. Maître Lachaud plaidera pour la femme et la jeune fille. Maître Georges Lachaud prendra la parole au nom de l'herboriste qui nie obstinément avoir jamais connu cette triste famille. Monsieur le Président Marnot a permis la lecture publique de l'acte d'accusation. Ce document très concis et très clair, est conçu en des termes qui en rendent possible la publication à peu près intégrale, nous le croyons pouvoir mieux faire que de la reproduire ici. Ferlin habitait depuis plusieurs années Nogent-sur-Marne où il a un atelier pour blanchir l'ivoire. L'immoralité de cet homme était notoire à Nogent. Et le public savait, par les propos des voisins et des ouvriers de Ferlin, la promiscuité honteuse qui régnait sous son toit. Élevée dans ce milieu, la jeune Désirée Ferlin donna des signes de dépravation précoce. La maîtresse de l'école où elle avait été placée avertit ses parents qu'elle faisait à ses camarades d'impudiques récits. Ferlin parut d'abord fort ému par ces avertissements et fit à sa fille de vives remontrances et des menaces. Puis il insista pour avoir d'elle la confidence détaillée des indécences qu'elle avait commises. Et à partir de ce moment, sa manière d'être avec sa fille parut fort étrange. Tantôt il la menaçait de mort et il la frappait. Tantôt il la couvrait de caresses et la traitait comme si elle devait gouverner la maison. Dans le courant de l'année 1878, la fille Ferlin disparut de Nogent et le bruit se répandit qu'elle avait été depuis longtemps violée par son père, qui lui avait ensuite imposé, avec l'aide et le concours et les encouragements de sa femme, un incestueux concubinage, devenu enceinte, assurait-on, des œuvres de son père, Désiré Ferlin aurait consenti à laisser pratiquer sur elle un avortement par une herboriste. Et ses parents, qui l'avaient aidé dans l'accomplissement de ce crime, auraient fait disparaître les traces en brûlant le produit de l'avortement. Ferlin, croyant s'être procuré des armes contre sa fille et contre les témoins qui pourraient déposer, osa provoquer une enquête pour faire punir ceux qu'il traitait de calomniateurs. Il en est résulté la preuve complète des faits révélés par la rumeur publique. Après quelques hésitations, la fille Ferlin fit le récit des crimes de son père. Un jour, il l'attira de force sur un lit, étouffé par ses cris, en lui plaçant la main sur la bouche, la paralysa par ses menaces et la viola. À partir de ce moment, la femme Fertin poussa sa fille à se livrer à son mari, qui exigeait avec violence ses complaisances. Cette femme assista à leurs honteuses caresses et les encouragea par l'exemple. Quelques mois après, la jeune fille devint enceinte et la femme Ferlin ne voulut pas que l'enfant vînt au monde. L'herboriste Désiré vint à nos gens. Elle expliqua à la fille, devant son père et sa mère, qu'il n'est pas criminel d'avorter peu de temps après la conception. L'opération fut faite avec l'aide des parents qui jetèrent le fœtus dans le feu. L'avorteuse dîna le soir avec la famille. La fille Ferlin dut, à peine remise, continuer à partager les caresses de son père avec la servante. Elle raconta ses dégoûts et ses souffrances à une fille Karl et à une fille Grosse Gain. Elle tenta de s'enfuir. Ses parents la reprirent. Enfin, ils consentirent à la laisser entrer dans le couvent de la Miséricorde à Paris. Après la lecture de l'acte d'accusation, les portes de l'audience ont été fermées. Elles fussent restées ouvertes que nous n'aurions pu, par respect pour nos lecteurs, oser parler avec plus de détails des actes abominables qui se sont passés entre le père et la fille. Nous devons nous borner à esquisser brièvement la physionomie des accusés, en précisant bien leur situation respective devant la justice. Ferlin est un homme de 46 ans, rouge de visage, blanc de cheveux, portant la moustache et la barbiche, et représentant assez exactement le type du vieux sous-officier. Il est de haute taille, d'une maigreur extraordinaire, l'œil est très dur, la parole brève et impérieuse. Cet homme était la terreur de tous les siens. Il a presque réduit à l'abrutissement sa femme à force de mauvais traitements. Et il rouait de coups ses maîtresses. Ferlin n'était pas moins réputé de ses voisins de Nogent. Il avait servi dans les bandes de la commune. Et ces derniers temps, il se vantait, comme d'un titre de gloire, d'avoir été l'un des premiers à fusiller les Versaillais et un des derniers à quitter Paris incendié. L'on ne s'explique pas qu'il ait pu échapper à la répression. En dehors des questions de mœurs, la conduite de ce misérable vis-à-vis de ses enfants était vraiment odieuse. Il leur enseignait le mépris de toute religion, et il refusa de laisser faire sa première communion à sa fille, Désirée, en la menaçant d'une correction sévère s'il ne voulait jamais mettre le pied dans une église. En ce qui touche l'accusation de viol et d'attentat à la pudeur sur sa fille, Fernand proteste énergiquement de son innocence. Il se prétend victime d'un complot ourdi contre lui par les deux femmes, complot dont il a d'ailleurs resté impuissant à expliquer les motifs. Sur la question de complicité d'avortement, il déclare que sa fille, devenue enceinte des œuvres d'un frère de la fille Karl, a appelé l'herboriste à son insu et que lui-même n'est rentré à la maison qu'après que le crime eût été consommé. La femme Ferlin, à l'extérieur d'une vieille marchande à la toilette, grosse, lipue, haute en couleur, elle a l'œil hagard et comme pétrifié. Elle proteste que ne l'a jamais favorisé la corruption de sa fille. S'il a eu, dit-elle, la faiblesse de laisser les actes les plus révoltants se commettre sous ses yeux, c'est la mort dans l'âme, en redoutant les terribles effets de la colère de son tyran domestique. Désiré Fertin, la victime, retenu par le ministère public comme complice de l'avortement pratiqué sur elle, est une jeune fille de 18 ans, blonde, chétive, aux traits pâles et fatigués. Elle n'est point jolie, mais elle paraît assez intelligente et d'un caractère fort doux. Cette malheureuse évite d'accuser sa mère et s'efforce même de la disculper. On dit qu'une dévotion ardente a éteint les instincts mauvais d'une éducation déplorable avait développé en elle. Réfugiée dans un couvent de repentis et laissée libre par le parquet, elle ne rêve plus que de ramener son père à des sentiments meilleurs. Elle lui a écrit dans cette pensée, depuis le procès, une série de lettres dont Maître Lachaud donnera vraisemblablement lecture et qui ne peuvent que devenir plus éloquentes dans la bouche de l'illustre avocat. Après les témoignages, les portes de l'audience sont ouvertes et les plaidoiries commencent. Avant de donner la parole à M. l'avocat général Campenon, M. le Président demande à Ferlin s'il a quelques explications nouvelles à présenter. Ferlin avec un accent haineux. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai oublié de faire connaître aux jurés que ma fille avait été la maîtresse de l'un de ses frères. Rumeur dans la salle. Maître Lachaud, se levant vivement. Ferlin, vous êtes plus misérable encore qu'on ne croyait au premier abord. Avec nous tous, Monsieur le Président, avait eu la générosité de vous faire grâce de cette odieuse calomnie. Car nous avons la preuve que cette abominable accusation a été dictée par vous à votre jeune fils, cet infâme. S'adressant à la cour. Monsieur le Président, pardonnez-moi ce mouvement d'indignation. L'avocat le plus respectueux a des mouvements qui partent du cœur et qui ne sauraient contenir. Monsieur l'avocat général Campenon prend la parole. Il requiert contre Ferlin un verdict affirmatif sur les questions d'avortement, de viol et d'attentats à la pudeur sur sa fille. L'organe du ministère public ne s'oppose pas à l'admission des circonstances atténuantes en faveur de la femme Ferlin et de l'herboriste. Il s'en rapporte à la sagesse du jury en ce qui concerne la désirée Ferlin. Maître Henri Coulon se lève ensuite pour présenter la défense de Ferlin. Forcé d'entrer dans le système insoutenable de son client, qui persiste à se dire victime d'un complot abominable, Maître Coulon a tiré aussi beau possible que bien cette cause déplorable. Après la plaidoirie de Maître Coulon, Maître Lachaud présente la défense de la femme Ferlin et de sa fille. Et c'est ici que se placent les lettres intéressantes dont nous parlions hier. C'est le seul côté consolant de ce procès. Désiré Ferlin s'est réfugiée dans un couvent de Vaugirard. Elle s'est repentie de ses complaisances pour son père et n'aspire plus qu'à prendre le voile. Mais avant de quitter le monde, sa pensée unique est de ramener Ferlin au bien et d'obtenir du ciel, par ses prières, que Dieu lui donne enfin le sens moral et les croyances religieuses qu'il n'a jamais eues. Par une délicatesse touchante, Désiré Fortin ne lui parla jamais du passé avant l'arrestation. Elle évitait de lui rappeler les attentats dont il l'avait rendu victime et semblait les avoir oubliés. Et elle poussa si loin ce sentiment qu'appelée devant le juge d'instruction, à la suite de la dénonciation parvenue au parquet contre Ferlin, elle refusa d'abord de l'accuser par un seul mot. Il fallut l'adjurer de dire la vérité à la justice et forcer, pour ainsi dire, ses aveux en la mettant en présence des témoins auxquels elle avait précédemment raconté toutes ses infortunes. On comprend que nous ne puissions donner des fragments nombreux des lettres de Désiré Fortin. Voici cependant quelques lignes particulièrement émouvantes. « Pauvre père, la peine que tu m'as causée n'a pas éteint la pitié dans mon cœur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sauver. Je n'ai pas eu, en parlant à la police, la pensée de me venger de toi. La vengeance n'appartient qu'à Dieu seul. Je lui ai demandé en grâce d'avoir pitié de toi. J'ose espérer qu'il a entendu ma prière. Ô mon père, comme lui, confie-lui toutes tes peines. Lui seul allégera ton fardeau. Crois-moi, si Dieu punit dans le temps, c'est pour t'épargner une éternité redoutable, c'est pour ramener à lui ce pauvre âme égaré. Il eût pu te laisser continuer ta triste vie et te frapper de moins au moment où tu n'y serais pas attendu, sans le laisser un seul instant pour te repentir. Aie donc la contrition, repens-toi. Il n'est pas de faute que Dieu ne pardonne. Et toi, pardonne comme je pardonne à ma mère, qui, par faiblesse, n'a pas osé t'arrêter sur la pente fatale. Qu'elle fasse de mes frères d'honnêtes gens et leur donne de bons exemples afin qu'ils ne tombent pas dans le mal où toi tu es tombé. Le jour où elle fut pour la première fois confronté avec son père, Désiré Ferlin le prit à part. Elle lui dit tout bas, « J'ai bien prié pour toi. » Et lui remit une petite médaille de la Sainte Vierge. Ferlin la repoussa avec un geste de colère. Maître Lachaud fait admirablement ressortir la situation déplorable de la femme Ferlin. terrorisée par son mari, et celle de la jeune fille, corrompue dès l'enfance par son père. Il sollicite leur acquittement. Au nom de l'herboriste, qui prétend toujours qu'elle n'a jamais connu la famille Ferlin, maître Georges Lachaud est bien forcé de plaider ce système insensé. Il ajoute qu'en tout cas, le ministère public ne rapportant pas preuve absolue, scientifique, de l'avortement de Désiré Ferlin, l'herboriste devait être déclaré non coupable. Monsieur le président Manot demande ensuite aux accusés s'ils ont quelque chose à ajouter pour leur défense. Seul Désiré Ferlin se lève en fixant les yeux sur le Christ et s'écrie « Je jure que j'ai dit la vérité, et rien que la vérité. Ayez pitié des cheveux blancs de mon père, qui a été entraîné par sa malheureuse passion. Ayez aussi pitié de ma pauvre mère, et rendez-la à ses enfants. Quant à moi, si vous me croyez coupable, prenez-moi, mais je vous en supplie, sauvez ma pauvre mère. » Et la jeune fille se rassied en sanglotant. Après le résumé de M. le Président Morneau, le jury entre en délibération. Il rapporte un verdict de culpabilité contre Ferlin, la femme Ferlin et la femme Désiré. Des circonstances atténuantes sont accordées à la femme Ferlin et Désiré Ferlin est déclaré non coupable. Ferlin est condamné aux travaux forcés à perpétuité. La femme Ferlin a 5 ans de prison et la femme Désiré a 5 ans de réclusion. En entendant sa condamnation, Ferlin ne perd rien de son sinistre sang-froid. Quant à sa femme, elle s'écrie « Mais c'est épouvantable, je n'ai rien fait !»